Qu'est-ce qui fait marcher? Ben, je pense que c'est la curiosité. Moi, j'ai... En fait, ça paraît incroyable de dire ça, mais j'ai, je sais pas, vers 16-17 ans, j'étais abonné à la recherche et j'étais toujours extrêmement curieux de comprendre ce qui se passait autour de moi, de comprendre même ce qui se passait que je ne voyais pas. C'est la curiosité. Moi, je crois que c'est la curiosité, c'est le désir d'avoir une certaine jouissance, finalement, de se dire bah, « j'ai compris, c'est comme ça que ça se passe » ou « c'est comme ça que ça peut se passer, j'ai une explication ». Je pense que c'est ça qui me fait marcher.
Bonjour, avec la complicité de Daniel Verling, président de la Société d'Astronomie de Nantes, et de Béatrice, nous accompagnons dans la rue Gilles Rammstein, climatologue, directeur de recherche au CEA, auteur de « Voyage à travers les climats de la Terre » paru aux éditions Odile Jacob.
Juste pour faire connaissance, votre parcours pour arriver là où vous en êtes.
Alors bon, c'est vraiment un parcours d'opportunisme. Hein. J'ai fait une école d'ingénieur et puis j'ai bien compris que ça ne m'intéressait pas tant que ça. Ingénieur, je voulais faire de la recherche. Donc j'ai fait, à l'époque, ça s'appelait un master, enfin un DEA, ça s'appelait à l'époque, de physique atomique nucléaire. Et suite à ça, je suis arrivé au CEA où j'ai fait une thèse sur des cavités supraconductrices. Et puis après, je calculais de plus en plus des choses compliquées sur des trajectoires de particules dans des accélérateurs. Et puis à un moment donné, je me suis rendu compte que j'écrivais des articles, mais que des gens qui comprenaient mes articles, il y en avait deux dans le monde, et au maximum. Et donc là, je me suis dit, tant d'investissements pour ça, finalement. Je me posais des questions, et à ce moment-là, c'est pour ça que je dis que c'est assez opportuniste, j'avais travaillé avec quelqu'un qui s'appelle Étienne Klein, qui est assez connu maintenant, et qui m'a dit, mais moi je connais Jouzel, ils sont en train de monter un laboratoire de climatologie, ça te dirait de changer. Et j'ai discuté avec Jouzel, ça m'a beaucoup intéressé, et j'ai dû réapprendre. Hein. Et après, j'ai réémergé comme chercheur en climatologie. Donc c'est vraiment les rencontres, c'est plus les rencontres de la vie scientifique qui m'ont amené là où je suis qu'un vrai parcours bien réfléchi.
Quelles sont les bases requises pour être un bon climatologue?
Alors si vous voulez, il y a différents types de climatologues. On va faire simple, on va les diviser en deux camps. Il y a ceux qui documentent le changement climatique, c'est-à-dire à partir de différents indicateurs, ils restituent des températures, des précipitations passées, hein, parce qu'il n'y a pas de paléothermomètre dans le sol hein, pour les températures passées. Et puis il y a ceux qui, au contraire, modélisent. Alors moi, je fais partie de cette deuxième branche. Et donc là, pour modéliser le système climatique, ben, il faut un bon bagage en physique. Et puis, il faut aimer un peu les équations. Ce sont des gros codes. Mais c'est pas... Moi, par exemple, j'utilise le code beaucoup plus que je le modifie. Donc, je dirais pas qu'il y ait besoin forcément d'avoir un très, très, très gros background en mathématiques physiques. Je pense qu'il faut avoir plutôt un background pluridisciplinaire. Parce que moi, je me pose des questions qui sont en fait finalement à la lisière de la biologie, de la géologie, de la climatologie. Donc, je pense qu'une forte composante pluridisciplinaire, c'est important. De pas tout de suite se focaliser vers quelque chose de très précis.
Vos sources d'informations?
Alors, bon... Il y a plein de sources d'informations. Alors, plus on remonte dans le temps, c'est-à-dire si vous y allez, vous intéressez par exemple au climat des dernières centaines d'années. Là, vous avez même des données instrumentales, c'est-à-dire qu'il y a des vieilles données dans les premiers centres météo qui sont instrumentales au sens où c'était vraiment des vrais thermomètres, des vrais pluviomètres qu'on utilise. C'est des données qui ont été référencées, il y en a très peu, hein, mais ça existe et ça permet de remonter sur quelques centaines d'années. Mais dès que vous allez plus loin que cette centaine d'années, il faut que vous utilisiez ce qu'on appelle les indicateurs qui sont indirectement des indicateurs des climats. Alors qu'est-ce qu'on a par exemple? Ben, on a les cernes d'arbres, on a les lacs varvés, les sédiments au fond des lacs, on a aussi tout ce qui est glace, même les glaces dans les Alpes, ça peut servir pour des périodes de temps qui sont assez proches. Et puis dès que vous allez vers des temps beaucoup plus anciens, alors là, si vous voulez, on peut remonter dans les océans, jusqu'à une certaine date, par exemple, dans les océans, à cause du fait que la croûte océanique se régénère, eh ben on peut remonter jusqu'à à peu près 120 millions d'années. Dans les calottes de glace de Vostok, de l'Antarctique, on peut remonter jusqu'à à peu près 1 million d'années. Vous voyez déjà la différence. Il y a un enregistrement glaciaire qui est seulement très jeune, mais je dirais qu'est-ce qu'il a d'extraordinaire, mais qui permet de remonter jusqu'à 1 million d'années, et les sédiments marins qui peuvent remonter jusqu'à 120 millions d'années. Et puis il y a tout ce qui est terrestre, qui peut permettre de remonter beaucoup plus loin. Mais par contre, il y a aussi toute une autre gamme, une autre série de marqueurs ce sont ceux qui sont liés à la vie. Parce que, par exemple, quand vous êtes dans l'océan, quand vous êtes à 18 degrés dans l'océan, vous avez une distribution de faune, enfin de petits coquillages, qui vous permettent de vous dire, voilà, ça, c'est, il faisait 18 degrés parce que j'ai 30% de tel coquillage, 30% de tel coquillage, etc. Donc ça, c'est des choses... Et c'est la même chose pour les pollens sur Terre. La distribution des pollens qu'on a permet de savoir quelle température il faisait. Et ça, ce sont des marqueurs qui sont liés à la vie. Comme, voilà. Après, il y a des marqueurs qui sont beaucoup plus utiles, mais beaucoup moins faciles à comprendre, qui sont les marqueurs isotopiques. Alors, pour faire très, très simple, dans une molécule d'eau, il y a donc... deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. Et cet atome d'oxygène, il peut être sous une forme 16, avec 8 neutrons, 8 protons, 8 protons, ou une forme 18. Après, le pourcentage d'oxygène lourd que vous avez dans l'eau, il est une fonction de la température. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a montré, quelque chose qui n'est pas du tout évident, mais quelque chose qui permet de remonter très loin dans le temps. Donc on peut remonter, si vous voulez, grâce à ces différents indicateurs, sur des échelles de temps qui vont... d'aujourd'hui jusqu'à il y a 1, 2, 3 milliards d'années, on a des idées du climat jusqu'à à peu près 3 milliards d'années. Alors évidemment, elles sont d'autant moins précises qu'on remonte loin, ça c'est sûr.
Donc il manque 1 milliard d'années de données ?
Voilà, c'est-à-dire que en fait, entre 4,6 milliards et 3,8 milliards, là il manque vraiment quelque chose, parce qu'il y a à 3,8 milliards ce qu'on appelle le bombardement tardif, c'est-à-dire que la Terre a été bombardée d'astéroïdes et que c'est très difficile d'avoir beaucoup d'indications climatiques de cette période qui s'appelle l'AD1. Mais à partir de 3,8 milliards d'années, on commence à avoir des indicateurs un peu sûrs. Et par exemple, la Terre, il faut savoir qu'à 3,8 milliards d'années, elle est bleue. C'est-à-dire que c'est une Terre où il n'y a pas de continent, et c'est une Terre essentiellement océanique avec quelques petits atolls volcaniques. Donc c'est une Terre bleue, et l'océan de surface, d'après les données isotopiques qu'on a, Il est autour de 50 degrés, donc c'est un océan chaud. Donc le climat de la Terre, à ces époques-là, c'est une Terre plutôt chaude et qui n'a pas du tout la configuration qu'on lui connaît aujourd'hui, puisqu'il n'y a pas de continent. Les continents n'arriveront qu'autour de 3 milliards d'années, disons.
Mais le fait de peut-être ne jamais connaître cette histoire du premier milliard d'années, c'est une perte importante.
C'est-à-dire que le climat de l'AD1, donc cette période un peu cachée entre 4,6 et 3,8 milliards d'années, il y a des zircons, il y a quand même quelques petites pistes, si vous voulez, mais on aura certainement beaucoup de mal à en faire une description précise. Ceci dit, il ne faut jamais désespérer, hein, parce qu'il y a plein de paléo-indicateurs qui ont été inventés par les hommes, qui sont extrêmement puissants, dont on n'avait pas idée il y a quelques années. Par exemple, là, il y a un paléo-indicateur qu'on appelle, c'est du jargon, hein, mais le Delta 47, qui est un paléo-indicateur qui pourrait permettre de déterminer la hauteur des chaînes de montagnes qui ont disparu. Et ça, on pensait il y a une dizaine d'années ou une vingtaine d'années que c'était impossible, que c'était trop dur, que on n'aurait jamais la capacité de restituer la hauteur de chaînes de montagnes disparues. Donc, on a toujours des surprises, quoi. Heureusement, c'est ce qui fait aussi la beauté du métier, c'est d'avoir tout à coup une découverte qui fait que ça nous ouvre un pan de connaissances qu'on pensait qui était inaccessible.
Qu'est-ce qui détermine une période, une ère climatique ?
Ah, c'est une très bonne question, parce que justement aujourd'hui on rentre dans l'anthropocène, c'est ce qu'on appelle l'ère de l'homme. Pourquoi ? Parce que c'est l'homme qui change le climat. Donc il y a des gens qui disent qu'on entre dans l'ère anthropocène, alors qu'on était depuis 10 000 ans, à peu près, dans une ère qu'on appelait l'Holocène, qui était assez stable. Et en fait, si vous voulez, depuis à peu près 2 millions d'années, on est dans le Quaternaire. Mais avant ça, il y a d'autres aires géologiques. Par exemple, une aire géologique que les gens connaissent souvent, c'est le Crétacé, parce que c'est la période des dinosaures. Mais en fait, le Trias et le Jurassique aussi sont des périodes des dinosaures. Donc les grandes fractures dans les périodes géologiques sont marquées par des crises. Par exemple, les 5 excursions majeures sont à des limites géologiques. Et donc, il y a comme ça des manières de voir dans les sédiments des changements, des réorganisations, et qui ont permis aux géologues de dire, ben, tiens, là il s'est passé quelque chose, et je vais commencer à appeler cette période d'un autre nom. Par exemple, une des grandes cassures... La plus grande extinction, c'est l'extinction qu'on appelle Permo-Trias, qui se situe il y a 250 millions d'années entre le Permien et le Trias. Et en fait, c'est ce qui correspond à la fin de l'ère primaire et secondaire. Donc ça, c'est vraiment une cassure importante. Et puis ensuite, on passe du secondaire au tertiaire par une autre cassure importante que les gens connaissent mieux, parce que c'est la fin du dinosaure. C'est la limite Crétacé-Tertiaire qui, en fait, différencie le tertiaire le secondaire du tertiaire, il y a 65 millions d'années seulement. Et il y a d'autres, bon, je ne vais pas vous les faire toutes là, mais il y a beaucoup d'autres extinctions qui limitent le passage entre deux aires géologiques. Contrairement à ce qu'on pense, parce que nous, les hommes, il faut savoir un truc qui est très important, c'est que nous, on vit dans un monde très froid. Pas nous, vous et moi aujourd'hui, mais les hommes de manière générale. C'est-à-dire même si on remonte jusqu'à Toumaï, qui est l'ancêtre de l'homme il y a 7 millions d'années, il a vécu dans un monde froid, un monde avec deux calottes de glace, une dans chaque hémisphère. Ben, ce monde-là, ce monde froid, ben, c'est un monde extrêmement rare sur Terre. La plupart du temps, sur Terre, il fait chaud. Et par exemple, les dinosaures qui ont vécu entre 250 et 65 millions d'années, ils n'ont pas vu l'ombre d'une calotte de glace, quasiment. Et donc ça veut dire qu'eux, ils ont toujours vécu dans un monde chaud. Et la plupart du temps, sur Terre, il fait très chaud. Et donc c'est très rare d'avoir des calottes de glace, et encore plus rare d'avoir des calottes de glace sur les deux hémisphères. Alors aujourd'hui, on a l'impression qu'on est dans un monde froid, mais en fait, en réalité, si on regarde depuis un million d'années seulement, 80% du temps, on le sait, ça de façon certaine, on est dans un monde très froid, avec quatre calottes de glace, une sur l'Amérique du Nord, une sur l'Europe du Nord, et puis les deux qu'on connaît, au Groenland et l'Antarctique. Et il fait donc beaucoup plus froid la plupart du temps, dans ce dernier million d'années. Mais ça, c'est très rare sur Terre. En général, sur Terre, il fait chaud. Et donc cette image qu'on a d'oscillation entre un monde chaud et un monde froid, on oscille surtout entre un monde chaud et très chaud, mais rarement sur un monde très froid où il y a des calottes de glace.
Sur les grands débats d'aujourd'hui, on peut désamplifier.
Non, parce que le grand débat d'aujourd'hui... Moi, j'ai donc écrit ce livre là qui s'appelle « À travers les climats de la Terre », qui part vraiment du moment où on peut parler de climat sur Terre, c'est-à-dire à peu près 3,8 milliards d'années, comme je l'ai dit, et qui va jusqu'à la fin de la Terre, lorsque le Soleil va s'expandre en étoile rouge et va avaler en fait la Terre. Donc je parle du climat de cette... Ce climat-là, c'est sur des temps longs, évidemment, alors que l'homme, là, ce qu'il est en train de faire, c'est vraiment un changement extrêmement rapide. C'est pas tellement qu'on a un taux de CO2 aujourd'hui, il est de 402 parties par million. Ça, on l'a déjà connu souvent sur la planète. C'est le fait que deux choses. D'abord, là, on est en train de monter très très vite, comme on a très rarement vu sur Terre. C'est un phénomène extrêmement rapide, première chose. Et deuxièmement, c'est un phénomène extrêmement rapide qui se fait avec 7 milliards d'hommes, dont 80% de la population, enfin non, au moins 50% de la population, vit près des côtes. Et ça, c'est très important parce qu'on part d'un monde froid, comme je l'ai dit, et on va le réchauffer très rapidement. Et donc, une des conséquences de ça, c'est évidemment qu'on va fondre les calottes. Et ça, c'est extrêmement important, vu que si on était trois tribus paléolithiques, je dirais que ça n'aurait aucune importance. Mais ce n'est pas ça, on n'est pas dans ce monde-là. Donc voilà, on part d'un monde froid, on le réchauffe très 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 vite. Et donc on vit effectivement une période très différente des autres, pas tellement par le fait qu'on arrive de nouveau à des valeurs hautes en CO2, mais surtout parce qu'on y arrive à une vitesse extraordinairement rapide.
Et on n'a pas le temps de s'adapter, nous, les espèces.
Et on n'aura pas le temps de s'adapter, et on n'aura pas le temps non plus de laisser à la machine terrestre, sur le temps long, de faire ses propres régulations, parce que, en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est un peu l'artifice, l'homme, à l'échelle de temps géologique. Quand il aura brûlé une grosse partie de son carbone, le CO2 va rediminuer, il va se rééquilibrer, mais sur des temps qui sont les temps longs de 10 000, 100 000 ans. Et donc, en fait, pour arriver à l'équilibre complet de la machine, et donc, en fait... Aujourd'hui, on n'est pas sur ces temps-là. Nous, on est en train de perturber le système à des échelles de la centaine d'années. Et d'ailleurs, souvent, quand j'explique le fonctionnement du système Terre, j'explique qu'en fait, c'est une cascade d'échelles de temps. Il y a le Soleil qui va devenir de plus en plus puissant. Il augmente de 7% par milliard d'années. Donc l'échelle du milliard d'années, c'est l'échelle du Soleil. L'échelle de la dizaine de millions d'années, c'est l'échelle de la tectonique des plaques parce qu'elle modifie les continents et les océans. L'échelle de la centaine de milliers d'années, c'est ce qu'on appelle les paramètres orbitaux, le fait que l'obliquité terrestre bouge, c'est-à-dire l'axe qui est entre les pôles et le plan de rotation de la Terre, il bouge un peu et ça change beaucoup le climat. Et ça, c'est sur des échelles de 40, 100 000 ans. Et enfin, l'homme, lui, il change le climat, mais à des échelles de 100 ans. C'est-à-dire que dans cette valse à quatre temps, l'homme est sans doute l'élément exogène, si vous voulez, qui va bouleverser les choses à une vitesse tout à fait extraordinaire.
Nous accompagnons dans la rue Gilles Rammstein, climatologue, directeur de recherche au CEA, auteur de « Voyage à travers les climats de la Terre » paru aux éditions Odile Jacob.
Est-ce que vous avez le sentiment que le climat est en train de changer, ou est-ce que vous avez le sentiment que vous ne pouvez rien dire parce que vous ne sentez pas vraiment de différence?
Ah bah si, bah oui, ça change, hein. Ça c'est clair. Hein. Mais ça revient peut-être comme des années en arrière.
Ah, que ça change, mais en fait que ça revient. Vous n'avez pas le sentiment que c'est un truc nouveau, quoi, que vous n'avez jamais vu? Vous n'avez pas le sentiment que...
Ah bah si, moi, à mon âge, c'est sûr que j'ai vu...
Pas mal de choses.
voilà, j'ai vu des hivers rigoureux, quoi, par rapport à maintenant, ça n'a rien à voir.
D'accord, donc c'est pas forcément qu'on est en train de revenir, à vous le dire, revenir à des choses qui auraient eu lieu avant même que vous soyez là.
Oui,
mais ça c'est un peu subjectif, parce que comme ce qui est plus objectif, c'est la façon dont vous voyez le changement climatique, parce que pensez que ça, oui effectivement, il y a eu des périodes un peu plus chaudes, mais est-ce qu'il y a eu des périodes aussi chaudes que les périodes qu'on vient de vivre? Non. Enfin, disons que plus exactement, les années les plus chaudes qu'on ait connues depuis qu'on mesure, c'est-à-dire à peu près 200 ans, sont dans les 10 dernières années. C'est-à-dire que, par exemple, l'année la plus chaude de la planète, c'est mesurée partout sur le globe, c'est 2014, et il y a beaucoup, beaucoup de chances qu'on aura les résultats définitifs, qu'elle soit détrônée par 2015. Donc je pense qu'on est en train de vivre quelque chose d'assez inédit, en fait.
C'est la première fois que je vois un Noël sans neige, presque. Aussi froid, quoi. Enfin, pas aussi froid, justement, où on a l'impression que c'est pas Noël parce qu'il fait pas froid.
Ah bah là c'est Nantes, mais à Paris on avait un peu l'impression que...
Bah nous on est de Paris en fait.
Ah, vous êtes de Paris. Non,
ouais. On connaît pas Noël à Nantes.
Ah, d'accord. Parce que moi aussi à Paris j'avais le sentiment que c'était pas du tout l'hiver, on avait le sentiment que c'était presque le début du printemps tellement il faisait beau à certains moments, certains jours. Ouais. Et d'ailleurs on voyait des magnolias en fleurs, enfin on voyait des choses que la biologie elle répondait très bien à ça. Hein.
Vous préférez quand il fait beau, chaud, que quand il fait froid, non?
Bah oui. Et oui, tout à fait.
Pas à Noël. Ça fait pas esprit de Noël quand il fait beau, mais sinon oui.
C'est là le paradoxe. À la fois, on va toujours vers le soleil. On devrait être content d'un réchauffement climatique.
Bien sûr, il n'y a pas de raison de ne pas être content. Le seul truc, c'est qu'au début, tout va bien. Puis quand la remontée du niveau marin fait qu'il faut évacuer toute une partie de la côte, ça commence à déjà aller beaucoup moins bien. Et puis, nous, comme on est climatologue, on sait ce qui risque de se passer à des échelles de 30-40 ans. Et alors, ce qui est, comme vous dites, vachement paradoxal, c'est que nous, on va être plutôt peut-être satisfait finalement, parce qu'il va faire plus chaud, on va avoir moins froid, on va pouvoir faire plein de choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Mais si on regarde comment ce petit signal qu'on voit va se décliner pour nos enfants et nos petits-enfants, ce sera beaucoup, beaucoup moins bien. Et donc oui, c'est ça le paradoxe, c'est comment on peut penser à 20 ans en avance. Quand on voit qu'il se met à faire plus chaud, bah, on est naturellement plus content. Mais les prévisions climatiques, c'est que cette chaleur-là va aller avec des extrêmes de chaleur extrêmement chauds, des températures d'extrêmes qui seront presque celles qu'on a connues en 2003 en France, seront quasiment continues sur Paris dans quelques dizaines d'années. Et donc ce sera largement moins vivable et largement moins agréable. Mais dans un premier temps, comme on dit au début, jusqu'à là, tout va bien. Mais c'est les prémices d'un changement et d'un bouleversement énorme.
Ça vous fait peur ?
Je me suis jamais vraiment posé la question.
Puis c'est pas facile de se projeter sur aussi longtemps.
Non, mais c'est sûr que c'est un changement. Moi, je pense que c'est pas bénéfique, quoi. C'est plus, y a plus de saison du tout, quoi.
Il y a encore des saisons.
Moins marquées. Un peu moins marquées, peut-être. Parce qu'un hiver comme ça, c'est quand même un hiver très doux. Donc, si par exemple l'été est encore extrêmement chaud, la différence de température entre l'hiver et l'été n'aura pas tellement changé. Sauf que l'hiver sera plus doux et que l'été sera plus chaud. Mais bon, les gens ont l'impression qu'il n'y a pas de saison parce qu'en fait, le symbole, c'est quand même la neige, c'est quand même d'avoir bien froid l'hiver. Et ça, c'est peut-être un sentiment qu'on aura moins, qu'on a moins déjà. Comme disait la dame tout à l'heure, il faut revenir à des idées, des hivers, une bonne dizaine, vingtaine d'années en arrière, voire plus, pour avoir se rappeler d'hivers très, très rigoureux, successifs. Hein.
Je crois que c'est dans les années 60, la Loire avait gelé. Ouais. On pouvait la traverser à pied. Ça, on n'est pas prêt de revivre ça.
Ah, ça va être difficile, hein, je pense. Bon, ça peut se produire, hein, parce qu'il y a toujours une variabilité climatique naturelle. Hein. Donc, c'est jamais à exclure. Mais globalement, les tendances, ce sera plus ça, non.
Merci à Gilles Rabstein, climatologue, auteur de Voyage à travers les climats de la Terre, paru aux éditions Odile Jacob. Et merci à
Catherine,
Aurélie,
pour leur libre participation à ce reportage, réalisé avec la complicité de Daniel Wörling, président de la Société d'astronomie de Nantes, et de Béatrice.